Alors bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des Veilles, l'émission qui parle d'alimentation végétale et de la cause animale que nous vous concoctons chaque mois avec l'équipe de bénévoles de l'ABF. L'émission est diffusée le quatrième lundi de chaque mois et écoutable ou réécoutable en podcast sur le site de la radio, radiocampustour.com. Je présente l'émission ce soir avec Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir Jérémy.
Alors, au sommaire de cette émission de rentrée, cette émission du mois de septembre, nous accueillons dans la première partie de l'émission l'auteur et professeur de philosophie Audrey Jougla, qui vient nous parler il y a un livre qui vient de sortir aujourd'hui, mais on va dire du livre précédent, qui s'appelle « Montaigne, Kant et mon chien », publié chez Delachaux et Niesley, et elle vient aussi nous parler, je pense, un peu de son engagement pour les animaux. Dans la deuxième partie de l'émission, nous vous proposerons un petit reportage que nous avions réalisé à la dernière Vegan Place, qui s'était tenue à Tours le samedi 24 juin dernier. C'est Elias qui en a réalisé le montage, merci à lui. Alors c'est parti pour ce 24e numéro d'ABC les Veilles. Alors Audrey Jougla, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Audrey.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours et notamment ce qui vous a conduit à vous intéresser plus particulièrement aux animaux et à vous engager en leur faveur?
Alors, mon parcours professionnel, il a été vraiment en deux parties, c'est-à-dire que j'ai d'abord été journaliste et puis j'ai notamment travaillé à l'étranger, en Argentine. Et puis, sur le tard, je me suis reconvertie, j'ai repris des études de philosophie à distance et j'ai passé le concours, le CAPES externe pour être professeur de philosophie. Et donc, c'est ma deuxième vie, c'est la philosophie. Et les animaux, mais c'est quelque chose qui, c'est un sujet qui m'a intéressée très tôt quand j'étais enfant. Sauf qu'à l'époque, c'était un petit peu honteux de dire qu'on aimait les animaux. Enfin, moi, je me souviens que j'avais un petit peu honte. J'en parlais pas beaucoup autour de moi, notamment au collège ou encore moins au lycée. J'osais pas trop en parler. C'était pas du tout dans la mouvance à l'époque. Et c'est vrai que finalement, l'engagement, il est venu un peu plus tard. Quand j'avais 25-26 ans, je me suis dit, mais ce serait bien finalement de m'engager avec un peu plus de ferveur dans la cause animale. Et c'est là que j'ai commencé à rejoindre bénévolement plusieurs associations, dont L214, PETA, enfin à faire des petites actions ou des choses pour ces associations bénévolement. Et je me suis intéressée de près, évidemment, aux animaux de laboratoire. Donc voilà, ça a été vraiment un engagement ensuite qui m'a plus quittée.
Alors pour commencer, nous allons parler en premier lieu du livre que vous avez sorti cette année aux éditions Delachaux et Niesley. Un livre réjouissant, à la fois léger, émouvant, mais qui donne à réfléchir. Livre dont le titre convoque deux philosophes, Montaigne et Kant, et votre chien. Honneur à l'animal non humain. Pouvez-vous nous parler de votre chienne, comédie et du propos général de votre livre?
Alors, je vais essayer de résumer, en effet. Comédie, donc, c'était mon chien. C'était une chienne que j'ai rencontrée un peu par hasard en Argentine. C'était un chien abandonné, en fait. J'habitais en Argentine à ce moment-là. Et en effet, avoir un chien, comme beaucoup d'enfants, c'était un rêve. C'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et mes parents m'avaient dit, comme beaucoup de parents, tu pourras avoir un chien quand tu seras autonome et indépendante. Donc, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à avoir un salaire, une maison et une vie d'adulte. Et donc, à ce moment-là, j'ai pris un chien. Et on a vécu donc 13 ans côte à côte. Et ces 13 ans de compagnonnage, 13 ans et demi exactement, ont été l'occasion de réfléchir à la fois sur la condition des chiens, mais aussi sur la condition humaine à l'aune de la philosophie.
Alors, c'est à quel moment vous avez vraiment eu l'idée de faire le livre, c'est-à-dire vraiment de passer à l'écriture du livre?
Alors, l'histoire du livre, c'est une histoire assez incroyable. C'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'en fait, au décès de mon chien, j'ai été submergée vraiment par un chagrin inimaginable, c'est-à-dire que je n'avais pas du tout anticipé ça. Moi, je voyais plutôt l'aspect soulagement pour l'animal, parce que, évidemment, quand on se résout à l'euthanasie, c'est qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc, je voyais plutôt ça et je n'avais pas imaginé à quel point le vide serait important. Et en fait, face à ça, c'est à la fois toutes les années ensemble qui sont revenues et aussi tout ce que ça m'avait apporté qui m'a vraiment sauté à la figure. Et j'ai écrit ce livre vraiment en 15 jours. Ça a été extrêmement rapide. Enfin, ça a été c'était une nécessité, en fait. Et c'est un livre qui a surgi. Enfin, vraiment, ça a été un surgissement. Et je me suis mise à écrire. Donc, c'était début juin à ce moment-là. Et c'était le moment où j'avais plus cours parce que les élèves de terminale préparent le bac à ce moment-là. Et donc, pendant ce laps de temps, entre la fin des cours et l'épreuve du baccalauréat de philosophie, j'avais pas d'élèves et je me suis retrouvée toute seule dans cette maison sans mon chien, avec un vide absolument gigantesque. Et je me suis mise à écrire. Donc, j'ai écrit absolument toute la journée, du matin au soir, sans m'arrêter. Et puis, j'avais pas du tout de plan préconçu. J'avais pas non plus l'idée d'un livre. C'est-à-dire que c'était vraiment la nécessité d'écrire. Et le livre s'est fait tout seul. C'était incroyable. Enfin, ça a été vraiment... c'est vraiment une histoire très surprenante.
Et ça a permis un travail de deuil assez rapidement. Vous êtes senti comment après avoir fini l'écriture du livre ?
Ben, alors, forcément, je me suis dit « waouh !» Enfin, c'était fulgurant comme histoire. Enfin, c'est vrai que c'est assez rare qu'on puisse écrire comme ça. Enfin, ça venait du cœur. Et c'est vrai que oui, il y avait un immense soulagement parce que ça permettait évidemment de se remémorer, enfin, de voilà, revivre des choses, etc. Et je me suis dit, mais faut le partager parce que je suis sûre que ce que je vis là, en fait, tous les propriétaires de chiens le vivent. Et j'avais une pensée très particulière à ce moment-là, c'est que je me disais, mais moi, heureusement que j'ai une famille et un travail, parce que je me sens épaulée dans le quotidien. Et je pensais à toutes ces personnes seules qui vivent avec leurs chiens, mais qui sont toutes seules, notamment les personnes âgées qui vivent parfois le décès de leur chien comme une catastrophe. Et je l'ai compris, enfin, j'ai compris l'ampleur que ça pouvait avoir à ce moment-là. Et je me suis dit, mais ça doit être terrible, en fait, parce que c'est une compagnie incroyable. Et on le mesure, mais on le mesure complètement au moment du décès.
Et le lien avec les concepts philosophiques que vous évoquez dans ce livre, parce qu'on comprend tout à fait que vous parlez de votre chien, de l'amour que vous lui avez apporté, qu'il vous a apporté, mais ce qui est aussi absolument extraordinaire, c'est d'arriver à faire partager ce que vous avez ressenti avec des concepts philosophiques de ces deux grands philosophes.
Oui, alors pas seulement Kant et Montaigne, évidemment il y en a beaucoup d'autres, mais oui, parce qu'en fait, en tant que prof de philo, c'est vrai qu'on a toujours ce filtre, c'est-à-dire que même dans l'actualité, quand on voit des choses, etc., ça nous fait forcément penser à notre discipline et forcément qu'on a toujours ce réflexe de convoquer les auteurs parce qu'on se dit, mais ça, c'est ce que dit un tel, ça, c'est... Donc, c'est un réflexe professionnel, j'ai envie de dire, que tous les profs de philo doivent avoir, probablement. Et c'est vrai qu'avec le chien, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des préceptes de vie qui étaient, en fait, des concepts ou des théories en philosophie. Et ça permettait de faire ce pont qui est essentiel entre la réalité, le quotidien, l'expérience et la théorie, l'abstraction ou le discours qu'on a en philosophie. Et c'est ce qu'on fait avec les élèves, justement, quand on enseigne. On essaie toujours d'avoir cette force de l'exemple pour montrer que non, ce n'est pas des grandes théories abstraites, mais qu'il y a une valeur très forte au quotidien.
Parce que c'est vrai que vous montrez tout au long du livre, parce qu'il y a grosso modo deux grandes parties. Il y a finalement la vie avec Comédie, ça vous a permis vraiment de changer votre rapport au monde. Et ça, c'est ce que vous montrez bien. Puis il y a une deuxième partie où vous montrez même que finalement... par le biais de la relation avec Comédie, vous devenez meilleur. Alors, pour donner peut-être un petit exemple de ce que Comédie a pu vous apporter dans votre rapport au monde, vous évoquez par exemple le fait que vous avez appris à accepter et apprécier les routines et répétitions du quotidien. Vous dites d'ailleurs qu'un chien est un philosophe de l'habitude. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors ça, c'est un point très amusant que j'avais remarqué. Je m'étais je m'étais fait la réflexion au cours de nos innombrables balades. Donc, c'est vrai que le chien, la première des contraintes, c'est évidemment de le sortir parce qu'il en a besoin et parce que c'est une nécessité pour lui. Et contrairement au chat, notamment, hein, qui n'a pas cette contrainte-là. Et c'est vrai que, en soi, la balade est porteuse de plein de bonnes choses et de vertus sous ses apparences de contraintes. Notamment le fait d'apprécier la routine, qui est quelque chose que moi je déteste. Et je déteste la routine à un point qui fait que le changement était un peu aussi devenu une course en avant. Et le chien nous inscrit dans une routine perpétuelle par ses rythmes, évidemment, de journée. Voilà. Et c'est vrai qu'apprécier la routine, c'est quelque chose d'essentiel, puisque c'est ce que dit Kierkegaard, la vie n'est que routine. Et il faut vraiment l'entendre comme le fait que si on est toujours à la recherche de la nouveauté, de l'exaltation, de la surprise, de l'événement, en fait, on en vient à passer à côté de la simplicité qui fait la vie. Et la vie, c'est essentiellement des routines. C'est des routines qui sont parfois différentes, mais en fait, à chaque âge, on en fait tous l'expérience, on est toujours écrasé par la routine, en fait. Elle change un petit peu au fur et à mesure de la vie, mais chaque journée, en fait, répète systématiquement une routine. Et c'est vrai que réussir à apprécier ça, c'est déjà un immense pas vers le bonheur. Et c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous coûte en soi, alors que se réjouir de la nouveauté, c'est très facile.
Et connaissez-vous d'autres auteurs ou philosophes qui ont pu parler de ce que peut apporter la relation privilégiée avec un chien à son compagnon humain?
Oui, alors évidemment, moi je pensais aussi à la faculté de... Alors, il y en a plusieurs, mais la faculté, on parlait du présent justement, d'être pleinement à ce que l'on fait, être capable d'être complètement absorbé par le moment présent. Et c'est ce que dit Montaigne, notamment, dans un extrait très beau des Essais, où il explique, il dit « quand je dors, quand je danse, je danse ». Et justement, enfin, c'est quelque chose qui nous coûte particulièrement aujourd'hui, alors qu'on est tout le temps distrait ou diverti par les écrans. Il faut meubler le moindre instant, même quand on fait la queue quelque part dans une file d'attente, il faut tout le monde sort son portable pour surtout ne pas perdre un instant. Et on passe à côté de beaucoup de choses comme ça parce que finalement on n'habite plus le temps de la même manière. Et le chien, c'est un exemple justement par l'animalité, c'est un exemple de ce vivre à propos dont parle Montaigne, c'est l'expression qu'il emploie, le fait de vivre à propos, qui est justement cette capacité à être pleinement à ce que l'on fait et pas ailleurs. Et ça aussi, c'est une grande leçon qui permet d'accéder au bonheur, en tout cas.
C'est ce que peut apporter aussi la méditation, d'être vraiment au moment présent. Oui.
Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que nous, comme on est parasité un peu par notre pensée, on va avoir besoin d'un support comme la méditation pour canaliser justement ses pensées. Alors que l'animal n'a pas justement ce vecteur-là, il n'a pas. Donc forcément, lui, il est de plein pied dans le réel et de plein pied dans le moment présent.
Vous en parliez avec le jeu, puisque par exemple, vous parliez du jeu, vous parliez de. On y reviendra tout à l'heure sur votre carrière de musicienne, que la musique, c'est une manière aussi de vivre dans le présent, dans l'instant présent. Et vous dites, vous faites le parallèle avec comédie et le jeu, et le goût que le chien peut avoir pour le jeu.
Ouais. Oui, tout à fait, parce que le jeu, c'est quelque chose qu'on pratique assez peu, sauf avec les animaux, notamment le chien qui ne demande que ça, et les enfants. Et finalement, c'est un peu triste de se dire que quand on est adulte, on n'a plus d'occasion de jouer, parce qu'on oppose toujours la productivité avec le jeu. Il y aurait d'un côté l'inutile et de l'autre côté le productif. Et on se rend compte que les figures de l'artiste, du poète, de l'enfant sont du même côté que le chien, par exemple, c'est-à-dire des figures où on va s'arracher à la productivité pour créer ou pour jouer. Et donc, ne pas être dans quelque chose de rentable ou de productif, mais d'être dans un autre processus.
Alors, je vais vous poser une question, je ne sais pas si vous y avez réfléchi, donc, parce que le sous-titre de votre livre est Petite philosophie canine, parce que vous parlez du chien. Alors, j'imagine que parmi les auditeurs, il y en a certains qui n'ont pas forcément le chien, mais qui ont un autre animal. Et la question qu'on pouvait se poser, c'est si une petite philosophie, par exemple féline, ou une petite philosophie équine, serait-elle vraiment différente de votre petite philosophie canine?
Oui, alors c'est une bonne question. Dans le livre, il y a quand même des traits qui sont spécifiques aux chiens. Là, on parlait du jeu. C'est vrai que le chat, par exemple, n'a pas ce même besoin ou ce même attrait pour le jeu que le chien, qui va nous apporter ses jouets en permanence, par exemple. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est spécifique aux chiens. Je parle de la sieste aussi et la capacité à rester en repos. À demeurer en repos dans une chambre. Et ça, c'est aussi quelque chose que on pourrait attribuer au chat, pour le coup, parce que le chat dort aussi beaucoup, mais il a une très grande activité nocturne. Donc, je pense que voilà, il y a quand même ce livre est spécifique aux chiens dans de nombreux aspects, mais qu'en effet, chaque animal permet d'avoir aussi une lecture sur des capacités ou des enseignements qui lui sont propres. Et c'est vrai que le chat est complètement différent et reflète complètement d'autres valeurs, on pourrait dire, que celles du chien, qui sont très
Donc
différentes.
une petite philosophie féline serait à écrire alors.
Mais c'est possible en tout cas.
Dans votre livre, vous évoquez le travail d'enquête que vous avez réalisé sur les animaux de laboratoire et qui a abouti au livre Profession animale de laboratoire publié en 2015. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail et de l'association Animal Testing que vous avez fondée?
Oui, alors Profession animale de laboratoire, c'est un livre qui était très difficile parce que il résulte en fait d'une enquête que j'ai faite pendant plus d'un an dans les laboratoires français. Et c'était donc une enquête sur l'expérimentation animale, comme son nom l'indique. Ce livre, il était à la base, ça devait pas être un livre, c'est-à-dire que moi, j'avais fait l'enquête et je savais pas quoi faire de cette enquête. Et au début, je pensais plus à un documentaire pour la télé. C'était plus ça mon idée en fait. Sauf que j'ai une amie qui m'a conseillé d'écrire et qui m'a dit en fait, ben non, toi, ton outil, c'est l'écriture. C'est pas le, c'est pas, enfin voilà, tu fais pas des documentaires en fait, t'écris. Et donc sers-toi de ça et écris-le plutôt. Enfin, et donc l'idée m'a été suggérée par une amie et je la remercie beaucoup parce que finalement, je pense que le livre apporte une profondeur que n'aurait pas forcément eu un documentaire et que justement, l'image, elle a peut-être trop tendance à monopoliser parfois justement la réflexion, alors que dans le livre, je pense que il y a plus de réflexions, il y a plus de points de vue qui sont confrontés et il y a aussi peut-être plus d'émotions que ce qu'aurait pu donner simplement un documentaire. Donc voilà, c'est un livre qui a une histoire radicalement différente et qui m'a beaucoup coûté aussi à écrire parce que l'écrire, c'était aussi se replonger dans tout ce que j'avais vécu. Et donc, c'était pas facile parce que j'avais pas forcément envie de repasser par là en l'écrivant, mais c'était nécessaire, je pense.
Et vous pouvez nous parler un peu plus de l'association Animal Testing que vous avez.
Oui, et donc, bah, suite à ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'enquête qui était faite sur ce sujet-là. Ou alors, en fait, c'était toujours un chapitre qui était traité de manière très généraliste par les associations de protection animale pour deux raisons. D'abord, parce que c'est très compliqué. C'est un sujet qui devient très vite technique. Et donc, en fait, on se retrouve assez vite confronté à des questions bah, qui sont complexes sur la science, sur la manière de faire, etc. Et ça demande tout de suite des connaissances qu'on n'a pas et qui sont compliquées à obtenir quand on n'a pas soi-même une expérience de chercheur ou justement dans l'univers soit toxicologique ou pharmaceutique. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que c'était pas non plus, quand j'ai fait l'enquête, c'était un sujet dont on parlait très peu. On commençait à parler des abattoirs en 2015, mais il n'y avait pas encore eu toute la notoriété de L214 à cette époque-là. Et c'est vrai que les laboratoires, on n'en parlait plus du tout. C'était un sujet qui avait été populaire dans les années 90, mais qui s'était arrêté là. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une association dédiée vraiment aux animaux de laboratoire, qui puisse apporter une expertise sur ce sujet-là pour les journalistes, pour des étudiants qui s'intéressent au sujet, pour les politiques, bien entendu aussi, et donc avoir une expertise et un regard critique aussi. Parce que là-dessus, enfin voilà, on voit de tout circuler et c'était important d'avoir cette expertise-là et pouvoir continuer les enquêtes.
Et aujourd'hui, où en sont les avancées? Est-ce qu'il y a des progrès dans ce domaine-là? Est-ce que ça stagne encore et il y a encore beaucoup de, je pense hein, qu'il y a encore beaucoup d'animaux qui sont utilisés dans les laboratoires, mais est-ce qu'il y a quand même une avancée?
Alors, il y a des avancées en termes de conscience du grand public, c'est-à-dire que moi, je me souviens très bien qu'en 2015, quand j'en parlais, il y avait des gens qui pensaient que ça n'existait plus, alors que ça, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'on connaît beaucoup plus. Il y a des avancées aussi au niveau législatif, parce que c'est finalement un sujet qui est revenu à la fois dans les débats sur la cause animale qu'il y a eu, voilà, c'est revenu en fait comme dans le débat public, on va dire, et politique. Donc, par exemple, il y a la création d'un centre 3R, donc pour réduire le nombre d'animaux de laboratoire, qui est en cours en France. C'est quelque chose qui n'existait pas et qui est en cours de création. C'est quelque chose qu'on demande depuis très longtemps.
Vous pouvez expliquer pour les auditeurs ce que c'est un centre 3R, parce que peut-être.
Oui, donc c'est quelque chose qui existe en Angleterre et en fait c'est un centre qui est donc financé par l'État et qui vise justement à encourager les méthodes alternatives pour pouvoir réduire le nombre d'animaux utilisés, mais aussi réduire leur souffrance et les remplacer autant que possible. Et c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent, de même qu'il n'y a pas de base de données qui permettent vraiment d'éviter les doublons, par exemple, sur les expériences. Donc ça, c'est des progrès qui sont en cours, mais ça a pris énormément de temps. Et l'autre progrès, enfin le troisième qu'on pourrait mentionner aussi, c'est l'attitude de la recherche. C'est-à-dire qu'en 2015, 2016, quand j'ai créé Animal Testing, ils démentaient absolument tout ce qu'on publiait ou tout ce qu'on disait. Donc, il y avait vraiment un déni très fort de leur part en disant que voilà, c'était faux ou que c'était pas sourcé et que ça se passait pas comme ça, alors qu'ils ont radicalement changé d'attitude à partir de 2017-2018 en disant au contraire qu'ils allaient travailler dans le sens d'une réduction du nombre d'animaux, etc., et qu'ils allaient travailler pour le bien-être animal. Enfin, voilà, ils ont donc, au niveau de la communication, en tout cas, la recherche a complètement changé. Ils ne sont plus du tout sur le même axe qu'auparavant.
Et pour les auditeurs qui seraient intéressés par votre association, ils peuvent avoir des informations à quel endroit ?
Donc, on a un site animaltesting.fr où on a toutes les enquêtes qu'on a faites et puis quelques articles aussi de blog. Et on essaye d'enrichir au fur et à mesure. Là, cette année, on s'est beaucoup concentré sur l'initiative citoyenne européenne qui a abouti. Donc, on a réussi à obtenir avec d'autres associations européennes spécialisées aussi sur les animaux de laboratoire. On a réussi à avoir plus d'un million de signatures, 1,4 million. Donc, c'est énorme. Et ça permet de revoir justement la condition des animaux de laboratoire dans les instances européennes. Donc ça, c'est vraiment une campagne qu'on a menée tout au long, depuis un an en fait. C'était depuis août de l'année dernière jusqu'à août de cette année.
Et pour continuer avec vous dans toutes vos non pas vos travaux, mais votre implication, vous êtes aussi membre du jury du prix Maya. Alors, pour rappeler aux éditeurs ce qu'est le prix Maya, c'est le premier prix qui récompense le meilleur roman, la meilleure BD et le meilleur livre jeunesse qui œuvre pour la cause animale, contre la souffrance animale. Et donc, vous faites partie du jury avec 4 autres personnes. Et donc, quel est votre sentiment par rapport à cela et comment déjà vous avez rejoint le jury et qu'est-ce que vous pensez de ce prix et voilà.
C'est un prix que je trouvais novateur, notamment parce que ça permettait de mettre en lumière certains livres qui n'auraient pas forcément été connus du grand public sinon. Et puis surtout avec les catégories, la catégorie jeunesse, ou la catégorie BD, qui est parfois aussi adressée à des jeunes, je trouvais qu'il y avait un effort de sensibilisation envers donc les enfants et les adolescents, et je trouvais ça très intéressant. Parce que là encore, c'est vrai que les efforts dans la considération des animaux, ils sont à tourner vers la jeunesse. Enfin, voilà, on disait tout à l'heure en début d'interview, moi j'avais un peu honte d'aimer les animaux ou de les défendre parce que c'était, à mon époque, ce n'était pas forcément très bien vu. Ou, voilà, il n'y avait pas une image de la protection animale qui était très sexy, on va dire. Et ça a bien changé. Et donc là encore, il y a une grande évolution des mentalités. Et c'est vrai que ce prix permet ça et je trouve ça très bien.
Une évolution des mentalités et un nombre de plus en plus important d'ouvrages qui traitent de cela. Parce que jusque-là, on avait surtout des essais qui traitaient de la cause animale, alors que maintenant, c'est de manière peut-être aussi plus, quelquefois plus rigolote, mais qui peut permettre de passer un certain nombre de messages, et c'est ça qui est important aussi, je pense.
Oui, tout à fait.
Avez-vous un souvenir d'un livre qui a été sélectionné, qui vous a plus particulièrement marqué ?
J'ai beaucoup aimé cette année dans la sélection le livre justement qui parlait des animaux de laboratoire, forcément, de Joseph Andras, Ainsi nous leur faisons la guerre. C'est un livre qui, enfin, c'est un tout petit essai en fait, hein, qui est très court et qui raconte trois moments historiques de l'expérimentation animale. Et je trouve ça assez précieux parce qu'en fait, on oublie souvent ce que ça a été. C'est-à-dire que ce soit l'histoire de la médecine ou l'histoire de l'expérimentation animale, et ça a le mérite de montrer ce qui a été infligé aux animaux depuis la fin du 19e siècle notamment, avec l'évolution finalement du modèle animal, hein, tel qu'il a été utilisé. Et donc j'aimais beaucoup le propos de ce livre.
Alors, on parlait de l'importance justement de l'apport des livres qui parlent des animaux. Vous qui êtes professeur de philosophie en milieu scolaire, alors en philosophie mais aussi dans d'autres matières, est-ce qu'on parle des animaux? Est-ce qu'en philosophie on parle d'éthique animale? Est-ce que vous voyez des évolutions au niveau de ce sujet abordé en milieu scolaire?
Oui, alors il y en a une principale, c'est dans le programme de la spécialité HLP. Donc, humanité, littérature, philosophie, on aime bien les acronymes dans l'éducation nationale, ça donne un côté scientifique à la chose. Donc, en HLP, dans le programme de première, il y a tout un chapitre qui est consacré à l'homme et l'animal. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça permet donc de traiter à la fois l'évolution de la relation, enfin de la considération qu'on a eue envers les animaux à travers la littérature, à travers la philosophie. Et ça permet d'interroger à la fois les droits des animaux. Et donc, ça pose tout un tas de questions absolument fascinantes, c'est-à-dire à qui est-ce qu'on donne des droits, jusqu'où, pourquoi, qui en décide, comment, quelle est l'histoire de ça, qu'est-ce qui fait que certains n'ont pas de droits ou pas les mêmes droits que les autres, quelle est la logique morale ou rationnelle derrière ça. Et c'est aussi un chapitre qui permet de revoir justement tout ce qui va être culturel aussi dans la relation entre l'homme et l'animal. Donc on interroge à la fois plusieurs époques et aussi plusieurs thématiques sur ce sujet. Et j'ai eu le plaisir justement de coécrire un chapitre entier de cours, un manuel de cours sur ce thème-là de l'homme et l'animal. Et donc, voilà, je suis ravie, j'en profite pour le dire aux auditeurs s'ils ont des enfants en première, en HLP.
J'ai mon fils qui est en première en HLP, donc je vais demander à regarder effectivement le chapitre.
Ah ben, voilà, donc ça s'appelle Réussir HLP et c'est chez Atland. Voilà, c'est un manuel de cours et non pas juste des textes comme on peut avoir souvent.
J'y jetterai les deux yeux.
Et est-ce que vous avez envie de nous parler de vos projets, qu'ils soient littéraires ou militants? J'imagine que vous en avez encore plein de projets.
Mais oui, alors à travers l'écriture notamment, et puis aussi, alors c'est peut-être militant aussi, mais justement, donc on en parlait. Alors c'est pas pour les animaux, mais c'est cette fois-ci pour les élèves. Et c'est vrai que c'est l'éducation, en tout cas, ou l'école, est un sujet qui m'intéresse forcément en tant qu'enseignante, et surtout vu de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a en effet tout ce qu'on voit dans les médias et il y a tout ce qu'on vit nous autres au quotidien. Et c'est vrai qu'on ne peut que s'interroger en fait sur la différence entre les discours, les déclarations qu'on entend et ce qu'on vit, et surtout sur le futur, parce que là encore, on parlait des jeunes générations, mais en effet, le point commun, c'est dans l'éducation, c'est que c'est notre futur. Nous, ce que je dis aux élèves, nous, notre vie, elle est faite, c'est fini, enfin, ça y est.
Quand même.
La bataille est derrière nous, alors que eux, ils ont tout à faire, ils ont tout à conquérir, ils ont tout à changer. Enfin, c'est eux le futur. Donc, justement, l'enjeu fondamental de l'école, c'est celui-là. Et c'est pour ça que, ben voilà, le projet actuel, c'est en effet de parler de l'école à travers donc, mon nouveau livre qui s'appelle De l'or dans la tête.
Alors, eh ben, on arrive à la fin de l'entretien. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai découvert en lisant le livre Montaigne, Kant et mon chien que vous avez une carrière musicale. Donc, j'ai été jeté une oreille et je pense que ça peut être intéressant que les auditeurs puissent aussi se rendre compte. Donc, votre groupe, c'était Audrey Jungle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et choisir un morceau pour la pause musicale qui va suivre?
Avec plaisir, c'est une autre vie que j'ai eue aussi, une vie parallèle, qui n'a pas fonctionné comme j'aurais aimé qu'elle fonctionne. C'est le jeu, surtout en musique où justement c'est très très aléatoire. Et c'est vrai que donc pendant un peu plus de 6 ans, j'ai fait de la musique de manière amateur puis semi-professionnelle. Donc avec mon groupe de rock, on a commencé en Argentine, on a continué en France, on a fait beaucoup beaucoup de concerts et c'est ça qui me plaisait le plus, c'était les concerts et l'énergie des concerts. Et donc ce groupe de rock était un peu déjanté, un peu comme l'Erita Mitsuko, où, voilà, il y avait cette inspiration, un peu Noir Désir aussi. Donc un rock assez gay en tout cas et assez un peu de Manu Chao aussi forcément dans l'énergie qu'on avait. Donc c'était des chansons en français et en espagnol. Voilà. Et pour le titre, bah, la chanson que j'aime beaucoup, enfin une des chansons que j'aime beaucoup, c'est Pyromane.
Femme renversant en Ce samedi 18 juin 2022, heureusement à l'ombre des arbres qui jonchent le boulevard Hortelou dans le centre-ville de Tours, vu la quarantaine de degrés au thermomètre, s'est tenue la première édition normale de la Vegan Place depuis la pandémie. La Vegan Place est un événement incontournable autour du monde animal ayant connu sa première édition en 2019. Elle réunit associations, acteurs de la cause animale, mais aussi commerçants et entreprises travaillant autour de l'alimentation végétale. Ce rendez-vous a pour but de rassembler convaincus et personnes à convaincre autour des stands et des conférences organisées en intérieur à proximité du boulevard. Nous étions sur place et en avons profité pour discuter avec des passants, des exposants, des membres d'associations, des auteurs, etc. Edna, présidente d'Info Vegan, était présente à Tours ce samedi 18 juin. Info Vegan, association orléanaise née en 2015, a pour but d'informer et sensibiliser le grand public à la cause animale et à l'alimentation végétale. Elle remplit sa mission de différentes façons.
On tient des stands d'information, comme son nom l'indique, sur les alternatives végétales, sur les bienfaits d'une alimentation végétale pour la santé, une économie, une agriculture durable, pour les animaux qui sont élevés, confinés, torturés, mis en mort, etc. On fait donc sur toutes sortes de sujets, on a fait des conférences, enfin des stands contre la fourrure, alors contre, mais en proposant toujours des alternatives. Sur la fourrure, sur le foie gras, fatalement, chaque année, à Noël. Et aussi des manifestations, des happenings, des marches, un peu tout, quoi, tout ce que font les autres assos animalistes. Et on a fait surtout beaucoup de conférences à la médiathèque d'Orléans, en l'occurrence, avec toutes sortes d'assos L214 sur éthique animaux, André Ménache avec Pro Anima ou Antidote Europe. Enfin, tous, on a fait aussi sur la permaculture vegan, tout ce qui de près ou de loin, enfin de près si possible, touche à la cause animale et au progrès que nous voudrions lui voir faire, relève de notre domaine.
Edna nous explique également que la Vegan Place n'est pas seulement un événement tourangeau.
Depuis que nous sommes Info Vegan, nous avons chaque année, systématiquement, organisé une Vegan Place qui a toujours rencontré un gros succès. D'abord, pour ceux qui connaîtraient, sur la place de Loire, et ensuite, devant le succès et l'affluence du public, place de Loire et sur les ponts, d'un pont à l'autre, sur les bords de Loire, avec des associations locales, nationales, des commerçants, des conférences aussi en plein air, ce qui n'est pas l'idée du siècle, parce qu'il y avait du boucan, il y avait on préfère les conférences à l'intérieur, je dois le dire. Donc on a fait tout ça sans encombre et avec un gros succès. Et ça nous a permis de recruter des militants, d'informer. Et bien sûr, comme aux autres associations, la pandémie nous a vraiment pris de plein fouet. On n'a rien pu faire pendant 2 ans. Et l'année dernière, notre Vegan Place avait été dûment accepté et on avait invité tout le monde. 8 jours avant, la préfecture a sonné le glas en disant qu'elle était interdite là. Ce n'est pas du tout la faute de la mairie. C'était pour des raisons sanitaires. On n'a pas été les seuls à être éliminés du jeu. On a dû reprogrammer notre Vegan Place et elle a été refusée par le nouveau conseil municipal cette année, ce qui nous met dans un gros embarras et une grande perplexité parce que notre Vegan Place rencontrait beaucoup de succès. Le public était très bien, on a des articles de presse extrêmement bienveillants, donc on va voir comment on peut se dépêtrer de cette mauvaise affaire. Et c'est aussi pour ça qu'avec 2 autres militants, je suis venue sur la Vegan Place de Tours, d'abord parce que les Vegan Place me manquent en l'occurrence, et puis aussi pour prêter main forte sur les stands si besoin est, et glaner, pêcher des idées sur les autres stands. On est toujours en quête d'informations, de nouvelles lectures. Voilà, et que c'est, il faut se fédérer, il faut être amis les uns avec les autres et faire jouer la solidarité.
Comme nous le disait Edna, les Vegan Place d'Orléans ont rencontré un franc succès. Nous avons nous aussi mesuré durant notre Vegan Place Tourangelle l'importance d'événements comme ceci, notamment en rencontrant Marion, vegan venant du Mans, qui nous a dit la cause de sa venue en Indre-et-Loire ce samedi 18 juin 2022.
Trouver du monde avec qui j'ai des points en commun. C'est très rare qu'il y ait des événements en fait nationaux au niveau du véganisme. Donc voilà, on en a eu un à Paris il n'y a pas longtemps, le Veggie World. Là, j'ai entendu parler de la Vegan Place il y a un mois à peu près, donc pour Tours. Et je me dis, c'est l'occasion en fait de rencontrer plein d'assos, plein de stands. Enfin, c'est super chouette de rencontrer du monde qui nous ressemble un peu parce que c'est tellement rare. Moi, je viens du Mont-Saint-Jument. Et au Mans, on a vraiment très peu d'endroits pour nous.
La Vegan Place vit principalement des associations présentes sur le boulevard. Nous avons déambulé entre les stands et avons recueilli de nombreux témoignages. Roland Merger, déjà passé par ABC des Vegues il y a maintenant 2 ans, alors que l'émission était tout juste née, nous a présenté l'ASPAS et son groupe local dont il fait partie.
L'ASPAS est invité donc ce jour à la Vegan Place. Donc l'ASPAS est une association nationale pour la protection de la faune sauvage. On travaille sur l'ensemble des départements français. On a une 40aine d'années d'existence et on travaille aussi sur le plan juridique pour la protection des animaux et des mal-aimés en général.
Au niveau local, quelles sont les actions que vous menez plus particulièrement ?
Oui, alors les délégués sont responsables de 1 ou 2 départements. Moi, je suis responsable de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Bon, c'est du bénévolat et on travaille à faire connaître un petit peu la faune locale, notre faune locale des fois qui est méconnue. J'en veux pour preuve, par exemple, le blaireau qui est encore chassé en France et en Indre-et-Loire en particulier. Donc de faire connaître au grand public la biologie de l'animal et de pouvoir l'aider à sa protection.
Comme nous le disait Marion, il est important d'être présent à la Vegan Place. Roland Merger poursuit cette réflexion du point de vue des associations.
Bon, c'est la deuxième fois qu'on est présent à la Vegan Place. Je pense que c'est intéressant de pouvoir montrer au Tourangeau, bon, on est à l'ombre, sous les platanes, heureusement aujourd'hui, et de montrer ce que l'on fait d'une part, et justement d'être en contact direct et de pouvoir répondre aux questions sur cette faune sauvage.
Les associations présentes sont diverses. Nous avons donc également pu rencontrer Annie Moreau, dont avait été diffusée la conférence sur le loup réalisée lors de la Vegan Place durant les émissions d'été d'ABC des Vegues, qui nous a évoqué l'association Férus, pour laquelle elle était aussi présente.
Je suis bénévole au sein de l'association Férus, qui est une association dédiée à la protection des grands prédateurs présents sur le territoire français, c'est-à-dire l'ours, le loup et le lynx. Que vous dire d'autre que c'est une association nationale, mais qui fonctionne avec des réseaux régionaux, des réseaux locaux, de manière à fédérer les adhérents et à pouvoir avoir des actions localement. Et donc là, c'est le cas aujourd'hui, c'est le réseau de la région Centre-Val de Loire qui est présent à la Vegan Place de Tours.
Après s'être intéressé au milieu associatif, intéressons-nous désormais au milieu politique. Nous avons rencontré Étienne, présent pour, je cite, « renforcer les équipes le jour de la Vegan Place », mais qui se trouve également être bénévole au sein du Parti Animaliste, fondé en 2016 par plusieurs personnes, dont Hélène Thuy, qui avait tenté en 2022 de réunir les 500 parrainages nécessaires à la proposition d'une candidature lors des élections présidentielles.
Donc la Vegan Place de Tours, là je suis pour renforcer un petit peu les équipes, hein, puisque il y a toutes les associations de la protection animale. Et nous, au Parti Animaliste, on défend un petit peu toutes ces associations-là, d'un point de vue politique, pour que les partis politiques, que ce soit le nôtre ou que ce soit les autres partis, prennent à cœur la cause animale pour éviter les souffrances des animaux, mais aussi tous les problèmes écologiques que ça apporte, et aussi sur la santé, puisque derrière, la consommation de viande notamment peut apporter aussi quelques problèmes. Et donc, tout ça, il faut qu'en politique, ça se discute, ça parlemente, pour pouvoir trouver les bonnes alternatives à toutes ces choses-là, à tout ce que revendiquent les associations ici, aujourd'hui.
Étienne nous expliquait également que nombreuses des associations présentes à la Vegan Place avaient aussi comme volonté d'agir en collaboration avec les représentants politiques pour faire avancer le légal sur le sujet de la cause animale.
Il y a des associations ici à la Vegan Place qui sont en lien direct avec les parlementaires. Par exemple, il y a Code Animal ici qui est toujours très en lien sur les divertissements pour expliquer aux parlementaires qu'il y a des lois qu'il faudrait modifier et comment les modifier. Par exemple, je pense à la douane quand il y a des animaux exotiques qui arrivent, pourquoi il faut limiter ces importations-là. Voilà, ça c'est c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc les associations sont déjà bien en lien avec les parlementaires. Moi, au niveau du parti animaliste, nous, au niveau du parti animaliste, on fait aussi tout ce travail pour que les gens votent pour les animaux, mais aussi une sorte de lobbying animaliste auprès des autres partis politiques pour défendre des valeurs morales et éthiques.
La Vegan Place de Tours, c'est également un prix unique en France, le prix Maya. Organisé par l'association Edupop Animaliste, le but de ce prix est de mettre en valeur les ouvrages faisant avancer la cause animale. Nous étions à la remise de prix se déroulant dans la salle Michel Petrucciani, dans laquelle se sont également déroulées les conférences diffusées cet été.
Je m'appelle Betsa Beas, je suis adjointe au maire de Tours à la condition animale. Donc c'est la première fois qu'il y a une telle délégation hein, à la ville de Tours. Donc c'est notable, il y a beaucoup de choses encore à faire. Les premières actions qui ont pu être faites ont été d'instaurer une journée autour des animaux. Donc la journée mondiale des animaux a été l'occasion de faire ça début octobre. Il y a aussi été l'occasion de généraliser la cantine scolaire, voilà, la cantine scolaire. Donc vous savez que officiellement c'est un jour par semaine et la ville de Tours l'a généralisé à toute la semaine. Il y a voilà, plein de petites choses qui se travaillent hein, autour aussi des animaux liminaires, donc les animaux ni sauvages, ni de compagnie, mais qui peuplent nos villes. Et on essaye d'avancer pas à pas, c'est pas simple, il n'y a pas d'antécédent. Donc on invente au fur et à mesure, et puis au fur et à mesure aussi qu'on est interpellé sur des sujets qui touche la société. Donc vous dire aussi à quel point il y a des choses à changer. Hein.
Différentes catégories récompensent les auteurs et autrices de la cause animale. Dans la catégorie Meilleur roman animaliste 2022, c'est Voix d'extinction de Sophie Hennaff chez Albin Michel qui remporte le prix.
Le jury souhaite récompenser cette œuvre singulière qui prend le parti de l'humour pour aborder la sixième extinction, qui n'est pas très très drôle, elle.
À l'issue de la remise de prix, nous avons pu poser quelques questions à Sophie Hennaff, présente sur le stand des dédicaces.
Voix d'extinction, ça raconte l'histoire de quatre animaux qui débarquent sur Terre sous apparence humaine. C'est-à-dire qu'ils sont bien habillés, bien coiffés, ils parlent toutes les langues, etc. Et ils débarquent pour infiltrer un sommet du G7 et convaincre les chefs d'État de signer le traité de la dernière chance pour sauvegarder les espèces. Voilà. Donc quand ils vont arriver, effectivement, ils ont appris en gros comment négocier grâce à Noé, le patriarche, qui les a formés, mais mal et vite. Et donc quand ils arrivent, ils ont encore tous leurs réflexes d'animaux. Le chat continue de marcher sur les ordinateurs, même si elle a l'allure d'une très très belle femme. C'est Ava Gardner qui marche sur un ordinateur, quoi.
Elle nous a également expliqué la valeur qu'avait le prix Maya pour elle.
Très honnêtement, je ne connaissais pas le prix. Je ne suis pas de Tours, alors j'en avais pas entendu parler, mais je trouve ça super d'avoir un prix qui mette un coup de projo sur ce qui concerne effectivement la cause animale, sur les bouquins qui pourraient être liés, qui peuvent d'une façon ou d'une autre, avec plus ou moins de sérieux, de science, d'humour, de ce que avec. L'univers de chaque auteur faire avancer effectivement la cause.
Dans la catégorie meilleure bande dessinée animaliste, c'est Des graines et du boudin de Bagdère aux éditions La Plage qui remporte le prix.
Le jury a souhaité récompenser cette bande dessinée au carrefour de plusieurs genres. Essais, récits de vie, vulgarisation scientifique, servis par un trait épuré en noir et blanc. Une simple rencontre entre Prune et ses voisins déclenche une véritable enquête sur le véganisme, un parcours vers l'alimentation végane. Véritable guide, cette BD permet de vulgariser tous les enjeux liés au véganisme.
Dans la catégorie meilleur livre jeunesse animaliste, c'est l'album jeunesse La plus belle crotte du monde de Marie Pavlenko et Camille Garoche paru en 2020 aux éditions Little Urban qui remporte le prix.
La plus belle crotte du monde aux éditions Little Urban. Alors que les animaux de la forêt se lancent dans un débat pour savoir qui fait la plus belle crotte du monde, il baisse la garde et laisse place aux chasseurs. C'est donc un album aux illustrations magnifiques qui prend un parti pris original et un biais humoristique tout en sensibilisant à l'importance des traces dans la forêt, des petites crottes.
Enfin, dans la toute nouvelle catégorie du prix Maya des lycéens, « Comment et pourquoi je suis devenu vegan » de Ève-Marie Gingras aux éditions Éco-Société a remporté le prix. Initialement, cela devait être « Ainsi nous leur faisons la guerre » de Joseph Andras aux éditions Actes Sud qui devait remporter le prix. Mais le lauréat refuse malheureusement toute récompense de ce type, décision évidemment respectée par l'équipe du prix Maya, le commentaire des lycéens sur l'ouvrage ayant quand même été cité le jour de la Vegan Place.
On a le prix Maya lycée. Donc ça, c'est tout nouveau. Et c'est très chouette. Hein. Donc il s'agit d'un partenariat avec le lycée Vaucanson, à Tours, bien sûr. Les lycéens ont donné ce prix à l'œuvre de Joseph Andras. Ainsi, nous leur faisons la guerre aux éditions Actes Sud. Les lycéens ont récompensé cette œuvre originale pour son écriture tissant à la manière d'un triptyque trois récits de maltraitance animale. Le style de l'auteur, à la fois polémique, philosophique et poétique, a retenu l'attention du jury.
Quant à l'ouvrage d'Ève-Marie Gingras, c'est la démarche autobiographique alliée à la vulgarisation des enjeux du véganisme dépouillée de contenu moralisateur qui a emporté l'adhésion du jury. Ève-Marie Gingras a attiré l'attention des lycéens sur le processus de banalisation de la violence sur les animaux et nous amène à nous interroger. À défaut de mettre des couleurs sur la violence, pourquoi pas y mettre des mots. Audrey Jougla, membre du jury du prix Maya 2022 et que vous avez pu en entendre tout à l'heure, nous a richement dépeint ce prix animaliste le jour de la remise de prix.
Et c'est vrai qu'à travers ce prix, on voit une grande diversité en fait, de propos et surtout de manières de traiter la cause animale. Et c'est très intéressant de voir qu'au sein même de la sélection, par exemple, cette année, il y avait vraiment des angles radicalement différents. Aussi bien dans les romans que dans les BD, que dans les ouvrages jeunesse. Parfois c'est poétique, parfois c'est drôle, parfois c'est cru, parfois c'est ultra réaliste.
De très belles récompenses ont été offertes aux lauréats de cette édition. Il s'agit d'une série d'aquarelles représentant les yeux d'animaux qui ont été offertes par Florence Delry, passée par ABC des Vegues l'année passée. Nous remercions très chaleureusement tous les intervenants de ce reportage et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition Tourangelle de la Vegan Place.
Alors vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC d'Évêque qui touche à sa fin. Mais avant de terminer, Elisabeth, je crois que tu as quelques actualités que tu voulais évoquer aux auditeurs.
Tout à fait. Voici deux événements pour le mois d'octobre. Le premier événement va se dérouler le samedi 1er octobre. Nous aurons un stand AVF à l'Escape Game Chasse au Trésor, organisé par l'association Autour des Possibles. Cela va regrouper une trentaine d'entreprises et d'associations qui seront réunies à la ZAC Caserne Beaumont à Tours. C'est la rue du Capitaine Bougnon. Alors, le thème, quel pourrait être des alternatives plus écologiques à notre mode de vie? Comment s'habiller, se nourrir, se déplacer, réutiliser, etc. Et ça s'adresse à tout public. C'est de 12h à 19h. Avec des concerts gratuits, le samedi 1er octobre à Tours. Le lendemain, dimanche 2 octobre, nous aurons également un stand lors de la fête des oiseaux, organisée par la mairie de Tours lors de la Journée mondiale des animaux. Cela va se dérouler au lac de la Bergeronnerie de 11h à 18h. Vous pourrez bien entendu venir nous voir, mais aussi rencontrer les oiseaux présents dans nos jardins, sur les bords des rivières et des fleuves. Des associations de protection animale seront également présentes et les partenaires et les services de la ville de Tours présenteront leurs activités pour la connaissance et la préservation des oiseaux de la ville. Sur notre stand, nous aurons la chance de recevoir Izzy Ochoa, lauréate du prix Maya 2019 pour son album Jeunesse Fritz. Elle dédicacera son album Sauf qui plume, qui raconte comment étaient utilisées les plumes de superbes oiseaux dans ces derniers siècles. Et nous sommes encore en train de réfléchir sur d'autres animations en octobre. D'ailleurs, si vous souhaitez nous suivre, voici les liens indispensables. www.végétarisme.fr, c'est un nouveau site, un nouveau look, allez vite jeter un œil. Vous avez aussi Facebook, avf37.vg, Instagram, avf.tour, et notre adresse mail, vous nous écrivez, on vous répond tout de suite, avf-tour@végétarisme.fr. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain.
Eh bien, le 24e numéro d'ABC d'éveil est terminé. Merci aux auditeurs et rendez-vous le mois prochain, le mois d'octobre. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Dum 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 dum, my heart is beating like a jungle drum. Rock a dock a dock a dock a dock a rock a dum dum, my heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips. 'Cause all they say is kiss, 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 kiss. Toc 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 toc.